Chapitre 41. Ce qui se produisit à partir du 13 juillet pourrait figurer au programme des écoles d'artificiers ou de démineurs comme un excellent exemple de situation explosive à allumage progressif. Lorsque le petit journal parut le matin, vers 6h30, ce n'était encore qu'un entrefilet prudent, quoique, en première page, le titre n'évoquait qu'une hypothèse, mais très prometteuse. De faux monuments aux morts, allons-nous vers un scandale national? 30 lignes seulement, mais entre la conférence de Spa se prolonge sans aboutir, le bilan de la guerre, l'Europe a perdu 35 millions d'hommes, et le maigre programme des festivités du 14 juillet, dont on rabattait les oreilles qu'il n'aurait rien à voir avec le 14 juillet précédent, qui resterait inégalé forcément, l'information attira les regards. Qu'annonçait l'article? Rien. Ce fut sa force, l'imaginaire collectif eut tout le loisir de s'y engouffrer. On ignorait tout, mais on s'était laissé dire que peut-être des communes auraient commandé des monuments aux morts à une société dont on pourrait craindre qu'elle ne fût une société de paille, impossible de se montrer plus circonspect. Henri d'Aulnay-Pradel fut dans les premiers à le lire. Il descendait de taxi et, en attendant l'ouverture de l'imprimerie, il n'était pas 7 heures du matin, il acheta le petit journal, tomba sur l'entrefilet, de rage faillit jeter le quotidien dans le caniveau, mais se reprit. Il lut, relut, pesa chaque mot. Il lui restait encore un peu de temps, cela le rassura, mais pas beaucoup, ce qui décupla sa rage. L'ouvrier en blouse déverrouillait la porte de l'imprimerie. Henri était déjà sur ses talons. « Bonjour !» Il tendit le catalogue du souvenir patriotique. « Vous avez imprimé ça. Qui sont vos clients ?» Mais ce n'était pas le patron. « Tenez, il arrive, le voilà !» Un homme dans la trentaine, portant sa gamelle, le type de l'ancien contremaître qui a épousé la patronne, tenait le petit journal roulé à la main, mais, une chance, il ne l'avait pas encore ouvert. Henri impressionnait ces hommes-là parce que tout chez lui respirait le monsieur, le genre de client qui ne regarde pas au prix, exigeant et riche. Aussi, lorsque Henri demanda s'il pouvait s'entretenir avec lui, « Mais comment donc ?» répondit l'ancien ouvrier. Et tandis que les typographes, imprimeurs, compositeurs entamaient leur journée, il désigna la porte vitrée du bureau où il recevait les clients. Les ouvriers reluquait discrètement, Henri se tourna pour n'être pas vu, sortit d'emblée 200 francs et les posa sur la table. Les ouvriers ne voyaient que le dos du client, lequel avait des gestes calmes. Il repartit d'ailleurs bientôt. L'entretien n'avait pas duré, c'était mauvais signe. Il n'avait pas passé commande. Et pourtant, le patron vint les rejoindre avec un sourire de satisfaction d'autant plus surprenant qu'il n'aimait pas rater une affaire. Il avait reçu 400 francs, il n'en revenait pas, juste pour expliquer au monsieur qu'il ne connaissait pas le nom de son client, un homme de taille moyenne, nerveux, inquiet, aurait-on dit, agité, qui avait payé en monnaie sonnante et trébuchante la moitié de la commande, le reste la veille de la livraison, mais on ne savait pas où était allée la marchandise parce qu'un commissionnaire était venu chercher les paquets. Il tirait une charrette avec un seul bras, un sacré gaillard. Il est par ici. Voilà tout ce qu'Henri avait obtenu. On ne le connaissait pas personnellement, ce commissionnaire à la charrette, mais on l'avait déjà vu. Un bras unique, aujourd'hui, n'avait rien d'exceptionnel, mais faisant métier de tirer une charrette, c'était plus rare. Peut-être pas d'ici vraiment, avait dit l'imprimeur. Je veux dire, il n'est pas du quartier, mais il doit être des environs. Il était 7h15. Dans le hall, essoufflé, exsangue, près de l'apoplexie, Labourdin se planta devant M. Péricourt. « Président, président, sans même dire bonjour, sachez que je n'y suis absolument pour rien. » Il tendit le petit journal comme s'il était enflammé. « Quelle catastrophe, président, mais je vous donne ma parole !» Comme si sa parole avait jamais compté pour quelque chose. Il était proche des larmes. M. Péricourt saisit le journal et alla s'enfermer dans son bureau. Labourdin resta dans le hall, incertain de la conduite à tenir, devait-il partir? Y avait-il quelque chose à faire? Mais il se souvint que le président lui disait souvent « Ne prenez jamais d'initiative personnelle, Labourdin. Attendez toujours qu'on vous dise. » Il décida d'attendre les ordres, s'installa dans le salon, la bonne apparut, celle dont il avait quelque temps plus tôt pincé les tétons, la petite brune, bien excitante. Elle se tint à distance pour lui demander s'il désirait quelque chose. Oh, « Du café !» dit-il de guerre lasse. Labourdin n'avait le cœur à rien. Monsieur Péricourt relut l'article. Le scandale éclaterait ce soir. Demain, il abandonna le journal sur son bureau, sans colère. Trop tard. On aurait juré qu'il perdait un centimètre à chaque mauvaise nouvelle. Ses épaules tombaient, son échine ployait. Il rapetissait. En s'asseyant à son bureau, il vit le journal à l'envers. L'étincelle provoquée par cet article serait suffisante pour allumer la mèche, songea-t-il. Avec raison d'ailleurs. Dès qu'ils eurent connaissance de l'entrefilet de leurs confrères du petit journal, les reporters du Gaulois, de l'Intransigeant, du Temps, de l'Écho de Paris s'étaient précipités. On avait commandé des taxis, appelé des contacts. L'administration, interrogée, demeura muette, signe qu'il y avait anguille sous roche. Tout le monde resta sur le pied de guerre, certain que lorsque l'incendie se déclarerait, la prime reviendrait à ceux qui se trouveraient aux avant-postes. La veille, lorsqu'il avait ouvert la luxueuse boîte du bon marché, écarté le papier de soie et découvert l'ensemble ahurissant qu'Albert avait acheté pour lui, Édouard avait poussé un cri de joie. Dès le premier coup d'œil, il avait adoré. Il y avait un pantalon court kaki, descendant aux genoux, une chemise beige, une ceinture avec des franges comme on en voyait aux vestes des cow-boys sur les illustrations, de grandes chaussettes montantes couleur ivoire, une veste marron clair, des chaussures de brousse et un chapeau à bord démesuré, censé protéger d'un soleil dont il y avait beaucoup à craindre. Le tout, avec des poches partout, c'en était affolant. Une tenue de safari pour bal masqué. Il ne manquait que la cartouchière et le fusil d'1m40 pour faire de lui un tartarin plus vrai que nature. Il l'avait enfilé aussitôt et avait rugi de bonheur en s'admirant dans la glace. C'est dans cette tenue invraisemblable que le personnel du Lutetia le vit lorsqu'on lui livra sa commande, du citron, du champagne et du bouillon de légumes. Il le portait encore lorsqu'il se fit une injection de morphine. Il ne connaissait pas l'effet de la succession morphine, héroïne, morphine, peut-être catastrophique, allez savoir, mais dans l'immédiat, il en ressentit un mieux-être, une détente, un calme. Il se tourna vers la malle de voyage, le modèle Globetrotter, puis il alla ouvrir la fenêtre en grand. Il nourrissait une passion spéciale pour le ciel d'Île-de-France qui, à son avis, ne devait pas avoir beaucoup d'équivalent. Il avait toujours aimé Paris. Il ne l'avait quitté que pour partir à la guerre. Il n'avait jamais envisagé de vivre ailleurs. Même aujourd'hui, c'était curieux, l'effet des drogues, sans doute. Rien n'est tout à fait réel, ni tout à fait certain. Ce que vous voyez n'est pas exactement la réalité. Vos pensées sont volatiles, vos projets ressemblent à des mirages. Vous habitez dans un rêve, dans une histoire qui n'est pas tout à fait la vôtre, et demain n'existe pas. Albert, qui, pourtant, ces jours-ci n'avait pas trop la tête à ça, en fut tout émerveillé. Imaginez, Pauline assise dans le lit, son ventre plat conduisant à un nombril délicieusement ourlé, ses seins parfaitement ronds, blancs comme de la neige, avec des aréoles d'un rose délicat à pleurer, et la petite croix dorée qui cherche sa place, toute dérangée. Spectacle d'autant plus émouvant qu'elle n'y prêtait pas attention, distraite, les cheveux encore en broussaille parce que tout à l'heure, elle avait sauté sur Albert dans le lit. « C'est la guerre !» avait-elle lancé en riant. Elle l'avait attaqué de front, hein, courageuse comme personne. Elle avait eu facilement le dessus. Il ne lui avait pas fallu davantage de temps pour qu'il rende les armes, vaincu, heureux de sa défaite. Il n'avait jamais eu beaucoup de jours comme celui-là pour traîner au lit. Ce n'était arrivé que deux ou trois fois. Pauline, chez les Péricourt, travaillait souvent à des horaires impossibles, mais pas cette fois. Albert, lui, était officiellement en congé. Pour le 14 juillet, avait-il expliqué, la banque offre un jour de relâche. Si Pauline n'avait pas été employée toute sa vie comme bonne à tout faire, elle se serait étonnée de voir une banque offrir quoi que ce soit. Elle trouva le geste chevaleresque de la part d'un employeur. Albert était descendu chercher des pains au lait, le journal, les propriétaires autorisaient un réchaud uniquement pour les boissons chaudes, on avait le droit de faire du café. Pauline, nue comme un verre, scintillante des efforts de guerre qu'elle avait déployés, buvait son café et détaillait les festivités du lendemain. Elle avait froissé le journal pour lire le programme. Alors, pavoisement et illumination des principaux monuments et édifices publics, ça va être joli, ça. Albert achevait de se raser. Pauline aimait les hommes à moustache, à cette époque il n'y avait que cela, mais elle détestait les joues rugueuses. « Ça râpe », disait-elle. « Il faudrait partir de bonne heure », dit-elle, penchée sur le journal. « La revue commence à 8 heures et Vincennes, c'est pas la porte à côté. » Dans la glace, Albert observait Pauline, belle comme l'amour et d'une jeunesse éhontée. « Nous irons au défilé », pensa-t-il, « elle partira à son travail ». Et ensuite, je la quitterai pour toujours. Des salves d'artillerie seront tirées aux Invalides et au Mont-Valérien, ajouta-t-elle en avalant une gorgée de café. Elle chercherait Albert, viendrait ici, interrogerait. Non, personne n'avait vu M. Maillard. Jamais elle ne comprendrait. Elle aurait une peine terrible, elle inventerait toutes sortes de raisons à cette disparition soudaine, se refuserait à imaginer qu'Albert ait pu lui mentir. Non, impossible. L'issue devait être plus romantique, il aurait été victime d'un enlèvement ou il aurait été tué quelque part, son corps jamais retrouvé, jeté dans la Seine certainement. Pauline serait inconsolable. « Oh !» dit-elle, « c'est bien ma veine. Représentation gratuite à 13 heures dans les théâtres ci-après. Opéra, comédie française, opéra comique, Odéon, théâtre de la Porte Saint-Martin, 13 heures c'est juste l'heure où je reprends mon service. » Albert aimait cette fiction où il s'évanouissait de manière mystérieuse, elle lui conférait un rôle muet et romantique au lieu de la réalité si immorale. « Et bal, place de la Nation, je finis mon service à 22h30, tu pars, le temps de nous y rendre, ça sera presque terminé. » C'était dit sans regret. La voyant assise dans le lit en train de dévorer ses petits pains, Albert s'interrogea, était-elle une femme à devenir inconsolable ? Non. Il suffisait de voir ses seins magnifiques, sa bouche gourmande, cette promesse incarnée. Cela le rassura de penser qu'il lui ferait du mal, mais pas longtemps, et il s'absorba un moment dans cette idée. Il était un homme dont on se console. « Oh mon Dieu !» dit soudain Pauline. « Oh comme c'est méchant ! Oh comme c'est mal !» Albert tourna la tête et se coupa au menton. « Quoi ? » interrogea-t-il. Déjà, il cherchait la serviette. Les coupures à cet endroit-là, c'est fou ce que ça peut saigner. Avait-il de la pierre d'Alain, au moins ? « Te rends-tu compte ?» continua Pauline. « Des gens ont vendu des monuments aux morts ?» Elle leva la tête, elle n'y croyait pas. « Des faux monuments !»« Quoi, quoi ?» demanda Albert en se retournant vers le lit. « Oui, des monuments qui n'existent pas !» reprit Pauline, penchée sur le journal. « Mais attention, mon ange, tu saignes, tu en mets partout !»« fais voir !» cria Albert. « Mais poussin !» Elle lui abandonna le journal, tout émue de la réaction de son Albert. Elle comprenait. Il avait fait la guerre, il avait perdu des camarades, alors découvrir que des gens se livraient à une escroquerie comme celle-là, ça le révoltait. Mais enfin, à ce point, elle essuya son menton qui saignait tandis qu'il lisait et relisait le court article. « Reprends-toi, poussin, allons. On n'a pas idée de se mettre dans des états pareils. » Henri passa la journée à sillonner l'arrondissement. On lui avait signalé un commissionnaire demeurant rue Lamarque, au 16 ou au 13, on ne savait pas, mais personne, ni au 13, ni au 16. Henri prenait des taxis. Quelqu'un d'autre pensait que peut-être un type avec une charrette assurait des transports en haut de la rue Caulaincourt, mais c'était un ancien établissement, aujourd'hui fermé. Henri entra dans le café à l'angle de la rue. Il était 10 heures du matin. un type qui tire une charrette avec un seul bras, un livreur, vous dites, non, ça ne disait rien à personne. Il poursuivit en descendant la rue côté pair, il remonterait côté impair s'il le fallait, puis sillonnerait toutes les rues de l'arrondissement, mais il le trouverait. Avec un seul bras tout de même, ça ne doit pas être facile, hein. Vous êtes sûr ? Vers 11 heures, Henri s'engagea dans la rue d'Enrémond, où on lui avait assuré que le bougnat, à l'angle de la rue ordinaire, possédait une charrette. Quant à savoir s'il n'avait qu'un bras, personne ne pouvait l'affirmer. Il lui fallut plus d'une heure pour arpenter toute la rue, quand au coin du cimetière du Nord, un ouvrier lui déclara, sûr de lui, « Mais bien sûr qu'on le connaît, c'est même un drôle de particulier. Il habite rue Duhem au 44, je le sais, il est voisin d'un cousin à moi. » Mais il n'existait pas de 44 dans la rue Duhem, c'était un chantier de construction et personne pour lui dire où demeurait maintenant cet homme qui d'ailleurs disposait encore de ses deux bras. Albert s'engouffra dans la suite d'Édouard comme un courant d'air. « Vois, vois, lis !» hurlait-il en brandissant le journal froissé sous les yeux d'un Édouard peinant à se réveiller. « À 11 heures du matin, » pensa-t-il. Il comprit que l'heure n'avait pas grand-chose à voir avec la somnolence, en découvrant sur la table de nuit la seringue et l'ampoule vide. Depuis près de 2 ans qu'il pratiquait son camarade, Albert disposait d'une bonne expérience lui permettant au premier coup d'œil de différencier la prise légère de celle qui allait faire des dégâts. Il s'aperçut, à la manière dont Édouard s'ébrouait, qu'il s'agissait cette fois d'une dose de confort, celle qui permet de neutraliser les effets les plus dévastateurs du manque. Il n'empêche, combien y en avait-il eu de doses d'injection après la prise massive qui leur avait fait tant de peur à Louise et à lui ? « Ça va ?» demanda-t-il inquiet. Pourquoi portait-il l'ensemble acheté au bon marché, une tenue destinée aux colonies ? Dans Paris, elle n'allait pas du tout, c'était même assez ridicule. Édouard bougea la tête comme s'il sortait de l'eau, effet des drogues. La béance dans son visage était bien plus rouge qu'à l'accoutumée, avec la gorge écarlate et le fond tapissé d'un bouillonnement incessant, comme un caramel en train de cuire. Lorsqu'il poussait un cri, Édouard expulsait de la salive en quantité telle que vous étiez obligé de vous reculer pour vous protéger. Albert ne posa pas de questions. L'actualité, l'urgence, c'était le journal. « Tiens, lis !» Édouard se redressa, lut, s'éveilla tout à fait, puis jeta le journal en l'air en hurlant « Ah !» ce qui, chez lui, était un signe de jubilation. « Mais, » balbutia Albert, « tu te rends pas compte ? Ils savent tout, ils vont nous trouver maintenant !» Édouard, bondissant du lit, saisit sur la grande table ronde la bouteille de champagne qui reposait dans son seau à glace et s'en versa une quantité phénoménale dans la gorge, le bruit que ça faisait. Il se mit à tousser violemment en se tenant le ventre, mais continuait de danser et de hurler « Ah !» Comme dans certains couples, parfois, les rôles s'inversaient. Édouard, découvrant le désarroi de son camarade, attrapa le grand bloc de conversation et écrivit « T'inquiète pas, on part !» Il n'a vraiment aucun sens des responsabilités, pensa Albert. Il brandit le journal. « Mais lis, bon Dieu !» À ces mots, Édouard se signa fiévreusement à plusieurs reprises. Il adorait cette blague. Puis il reprit son crayon. « Ils ne savent rien !» Albert hésita, mais il fut obligé de le reconnaître, l'article était très vague. « C'est possible, » admit-il, « mais le temps joue contre nous. » Avant la guerre, il avait vu cela à la Cipale. Des cyclistes qui se poursuivaient, on ne savait plus lequel courait après l'autre, ça électrisait le public. Aujourd'hui, Édouard et lui devaient courir le plus vite possible avant que la mâchoire du loup leur attrape l'échine. « Il faut partir, on attend quoi ?» Des semaines qu'il le disait. Pourquoi attendre ? Édouard avait atteint son million, alors quoi ? On attend le bateau, écrivit ce dernier. Oh, c'était une évidence. Et pourtant, Albert n'y avait pas pensé. Quand bien même il serait parti immédiatement pour Marseille, le bateau n'appareillerait pas pour autant 2 jours plus tôt. « Changeons les billets !» déclara Albert. « Allons ailleurs !» Ça, pour se faire remarquer, nota Édouard, c'était elliptique mais évident. À un moment où la police serait à leur recherche et où les journaux se gorgeraient de cette affaire, Albert pouvait-il, sans risque, dire à l'employé de la compagnie maritime « Je devais partir pour Tripoli, mais si vous avez un départ pour Conakry un peu plus tôt, ça me va. Tenez, je paye la différence en liquide. » Sans compter Pauline. Il blêmit soudain. Et s'il lui avouait la vérité, et que, scandalisée, elle allait le dénoncer. « Comme c'est mal !» avait-elle dit. « Comme c'est méchant !» La suite du Lutetia devint d'un coup silencieuse. De toutes parts, Albert se sentait piégé. Édouard lui prit l'épaule affectueusement, le serra contre lui. « Pauvre Albert !» semblait-il dire.